Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle saison de Fauve à l'écoute, maintenant devenue Fauve présente. Je m'appelle Fanny, je suis stratège chez Fauve et je suis heureuse d'être de retour au micro pour continuer de vous livrer des discussions avec des gens qui font partie de l'entrepreneuriat, des passionnés, des gens qui sont réellement des leaders de changement. Et on passe en force cette semaine avec un épisode qui met en lumière Cédric Provost, qui est le président et cofondateur d'Antosystème. La mission d'Antosystème, c'est de revaloriser, par exemple, des matières résiduelles qu'on trouve en épicerie pour nourrir des larves de mouches qui vont servir à produire de la protéine d'insectes. Ce produit-là est en train de faire sa place dans le marché de la nourriture pour animaux. C'est réintroduit, par exemple, dans le cycle d'alimentation des poissons d'élevage, des animaux de ferme. C'est une discussion qui m'a marquée parce que l'alimentation par les insectes, c'est encore quelque chose de fascinant, c'est encore quelque chose de curieux, de mystérieux. Mais quand on écoute Cédric en parler, c'est clairement une industrie qui a beaucoup de sens. Autant environnementalement que dans les propriétés santé de l'aliment, le tout est extrêmement cohérent. Dans la conversation, vous voyez clairement le côté visionnaire de Cédric, mais aussi beaucoup de transparence par rapport aux défis de son industrie et ses propres défis de trouver sa place dans une entreprise qui était à la base une start-up qui maintenant grandit, qui se complexifie. Je vous laisse donc découvrir Antosystème. Bonne écoute! Cédric, je suis terriblement enthousiaste de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Je suis tellement curieuse de ton parcours, de ton entreprise, du domaine dans lequel tu as décidé d'œuvrer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'en parler avec autant de détails un peu de ton parcours?
Je dirais que c'est clair que les insectes, je pense, ça intrigue les gens, ça laisse personne indifférent, mais je pense que c'est la première fois là, que je vais pouvoir en parler autant en détail que ça ici. Là.
OK, c'est bon. Bien, dans un premier temps, est-ce que toi, d'emblée, ton parcours, tu t'enlignais pour quelque chose qui est relié à l'entrepreneuriat? Est-ce que tu sentais que ça allait être ça, ton chemin?
Pas nécessairement. C'est pas quelque chose que je recherchais à tout prix. C'est sûr que, bon, mes quatre parents, là, ayant des familles séparées, ils ont chacun une entreprise. Là, fait qu'il y
a... OK, t'avais des exemples de ça.
Oui, non, c'est clair. Toi. Puis j'ai travaillé dans les entreprises familiales, là, dans le fond, dans deux des entreprises familiales. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai baigné dedans, que j'ai vu, mais okay. je cherchais peut-être pas ça à tout prix. Là.
OK, puis clairement, t'aurais pu avoir, d'une façon ou d'une autre, l'opportunité de reprendre une business familiale, de t'impliquer à d'autres niveaux. Donc, c'était vraiment ton choix de faire autrement.
Oui, on en parlera en détail, là, mais effectivement, quand j'ai été en contact avec le modèle d'affaires des insectes, etc., pour moi, il n'y avait pas de solution. Là, il fallait se lancer là-dedans. Là.
OK, mais peu de gens deviennent en contact avec le modèle d'affaires des insectes. Ça t'est arrivé comment?
En fait, je cherchais quand même un projet agricole. C'était quelque chose que je regardais quand même.
Okay.
Tu sais, le petit rêve utopique là, de te lever sur ta terre, de voir tes pommiers puis de marcher.
OK.
On s'est éloigné de ça un peu avec une usine d'insectes, mais c'est vraiment en regardant l'agriculture puis en cherchant puis en apprenant puis en réalisant que l'agriculture, c'est quand même une grosse source de gaz à effet de serre,
mm-hmm.
Qui n'est pas nécessairement bonne pour la planète, là, même si autant essentielle. Fait que c'était de trouver une façon de revaloriser ça, d'améliorer l'empreinte carbone de l'agriculture.
OK. Puis comment est-ce que ta réflexion t'a été vers, je me demande si les insectes, ça existe, est-ce qu'il y a un milieu complet qui se développe par rapport aux insectes, puis c'est juste que la majorité des gens ne sont pas au courant?
Bien, au début, c'était plus, exemple, faire de l'aquaponie, donc d'utiliser des poissons, des plantes, mais c'est en creusant les modèles d'affaires qu'on se rend compte, OK, bien, le poisson que j'achète à l'épicerie qui a été élevé, ben, on le nourrit comment? Mais en général, un poisson à l'épicerie d'élevage, mm-hmm. on va manger entre 3 et 5 poissons sauvages.
OK.
Donc, c'est un peu parti de là de voir que, bon, ben c'est vraiment pas durable là, d'aller prendre des poissons qui sont dans l'océan à l'autre bout de la planète, de vider l'océan, de le ramener par paquebot, tout ça pour faire des croquettes pour nourrir d'autres poissons. Puis quand on regarde un peu plus, ben quand vous allez pêcher, vous allez utiliser un ver, vous allez utiliser une mouche. Donc, c'était juste de ramener un ingrédient un peu plus naturel dans l'alimentation des animaux.
OK. Donc là, le modèle d'affaires, c'était d'essayer de reprendre l'alimentation de base des animaux. Puis, comment est-ce que on en vient... Le chemin se fait comment à... On explore les insectes versus on a une usine de mouches. Juste le dire, ça sonne un peu drôle. Comment est-ce qu'on en arrive là? J'imagine que tu n'étais pas seule un peu dans cette démarche-là.
Non, exact. Je n'étais pas quelqu'un qui connaissait les insectes à la base. Puis, okay. un moment donné, par hasard, j'étais dans un souper justement en train de parler de tous ces projets-là d'aquaponie. Okay. Puis, la personne qui est à côté de moi, Jean-François Despelteau, qui est aujourd'hui le cofondateur, mm-hmm. lui rêvait d'entomophagie, aimait ça manger des insectes, il voyait tous les bienfaits. Fait que c'est vraiment en discutant d'un peu nos deux passions qu'on a réalisé que les deux allaient ensemble et qu'on pouvait partir un projet d'entreprise ensemble.
OK. Puis, j'imagine que... il y a moyen d'être un peu mentoré dans le domaine de l'entrepreneuriat par d'autres entrepreneurs, mais il n'y a pas 50 autres entreprises qui font ça. C'est très spécifique à vous. J'imagine que ça a été un défi d'identifier tous vos besoins spécifiques à comment est-ce qu'on bâtit une bonne usine de mouches.
Oui, non, c'est clair qu'il n'y a pas 800 experts, surtout pas quand, ici, il y a 6 ans là, qu'on se rappelle à nos ouais. débuts. Donc, on était très... Tu sais, je pense qu'on avait une équipe complémentaire, justement, Jean-François, qui était un comptable, il travaillait à la Banque Royale, etc. Fait que lui a continué à garder son emploi, fait qu'il amenait des choses que peut-être que j'avais un peu moins. Fait que je pense qu'à la base, on était une bonne équipe. Bon, on était vraiment très méticuleux. On est allé du début le voir tout ce qui se fait sur la planète, mm-hmm. valider les clients, valider le modèle d'affaires. Donc, on est allé tranquillement au début. On n'est pas allé trop vite pour vraiment faire un mapping un peu de qu'est-ce qui existe, qui n'existe pas.
Ça avait l'air de quoi, ce mapping-là, il y a 6 ans, visiblement?
Bien, je dirais que c'était surtout au stade. Il y avait peut-être quelques entreprises dans le monde qui faisaient ça à une semi-grande échelle. Donc, on voyait qu'il y avait une espèce d'intérêt, que ça existait. Il n'y avait pas rien du tout. Mais c'est surtout au niveau académique. Donc, ça a été d'aller faire des partenariats avec des universités, autant au Canada qu'aux États-Unis, qui faisaient beaucoup de recherches là-dessus. Ça a été de voir un peu tout cet écosystème. Puis, il y avait quand même aussi des clients là, qui avaient déjà de la demande. Là.
Ah oui? C'est quelles industries qui ont levé la main en premier pour...
C'est vraiment l'industrie des animaux domestiques. Là, je dirais, si on a un bon partenaire qui était là depuis le début, c'est une entreprise qui s'appelle Egan, qui sont situées à Montréal. Donc, ils font une multitude de produits, mais certains à base d'insectes. Donc, déjà, eux, à la base, ils ont dit, « Bien, nous, on va vous encourager. Amène-moi 1 kilo, je vais te l'acheter. » C'est vraiment un peu démarré de là.
OK. Et puis, toute cette phase-là de recherche, c'est pas nécessairement toutes les nouvelles entreprises qui ont besoin d'aller faire de la recherche avec les universités non plus. Là, c'est une démarche complètement différente. Ça a pris combien de temps de l'idée de base, du début de l'embryon de ce projet-là jusqu'à on a une usine qui est fonctionnelle?
Oui, ben en fait, pour l'instant, on a vraiment une usine pilote. Fait que je dirais que là, ça fait 6 ans qu'on est encore au stade de recherche-développement. Mm-hmm. Mais notre usine à grand déploiement est en construction actuellement. Fait qu'elle devrait être prête là, d'ici la fin de l'année prochaine.
Fait
qu'on peut dire que c'est un bon 6 ans avant d'avoir une usine qui vraiment produit de façon industrielle.
Là. OK. Donc là, c'est chez les fabricants. Des fabricants d'ici, est-ce que vos clients sont beaucoup... basé au Québec, au Canada, ou c'est vraiment à l'international, vu que c'est embryonnaire un peu partout dans le monde?
Bien, je dirais que c'est clair qu'une demande internationale. Nous, on va focusser quand même sur le local pour le circuit court le plus possible. Mais c'est sûr qu'on a des produits qui peuvent s'exporter Canada et États-Unis.
OK. Puis là, juste pour bien comprendre, si tu avais à me résumer, comment ça fonctionne, ce processus-là? Qu'est-ce qui se passe dans cette usine-là quand on rentre? C'est quoi le début de ce processus-là?
Ouais. Bien, pour bien comprendre le début, je pense qu'il faut même aller avant l'usine. Uh-huh. C'est-à-dire, on a un partenaire qui est Sanimax. Dans le fond, c'est un autre partenaire, un actionnaire dans l'entreprise. Lui va s'occuper d'aller chercher la matière organique. Parce qu'il est important dans notre modèle d'affaires, c'est qu'on récupère le gaspillage alimentaire. Donc, tous les épiceries, malheureusement, ils ont de la perte, que ce soit des fruits, des légumes, produits boulangerie, etc.
Fait que nous, industriel, pas nécessairement le compost des résidentiels.
Non, c'est une super bonne question. On prend vraiment juste tout ce qu'on appelle pré-consommateur, c'est-à-dire avant que ça touche au consommateur, parce qu'on a besoin d'une traçabilité.
Mm-hmm, nécessairement.
Exact. Donc, le bac brun, c'est pas ce que vous avez mis dedans, etc. Donc, mm-hmm. on va vraiment tout, ce qui est épicerie ou industrie. Donc, on va aller les récupérer. Encore une fois, c'est notre partenaire, Sanimax, que toute la logistique, là, les camions, etc. Mm-hmm. Donc, on va chercher cette matière organique-là. Puis au lieu qu'elle aille à l'enfouissement ou même du compostage, bien, on va venir le prendre. Donc, cette matière-là rentre dans l'usine. Mm-hmm. Nous, on a tout un pré-traitement à l'interne pour la traiter, comme je dirais, mm-hmm. là, juste pour qu'elle soit facilement assimilable par nos insectes.
OK.
Fait que c'est 250 tonnes par jour qui va rentrer. Donc, imaginez peut-être une vingtaine de gros camions pleins de matière organique qui rentrent dans l'usine. 6 jours après, cette matière-là, elle a été consommée au complet par nos larves. Après 6 jours, on va récolter les larves. Donc, les larves vont être séchées. Ça devient de la nourriture pour les animaux domestiques. Puis tout ce qui reste, bien, c'est le fumier des larves qui est vendu comme un fertilisant biologique.
OK. Puis est-ce qu'il y a moyen? OK, j'ai beaucoup de questions dans plein de directions. D'emblée, ça a dû être... est-ce qu'il y avait de la réticence de la part des... par exemple, des épiceries, des choses comme ça, de vous donner cette matière-là?
Non,
c'est quand même une grande quantité de nourriture par jour.
Exact. Mais tu sais, je pense que la plupart des épiceries, puis je vais parler surtout pour le Québec ou le Canada, ils ont vraiment une volonté de réduire puis d'être le plus zéro déchet possible.
Mm-hmm.
Donc, quand ils voient que leur matière organique peut aller dans ce qu'on appelle la hiérarchie de récupération des aliments,
ouais,
le plus haut possible. Fait qu'idéalement, on s'entend, ils voudraient que ça aille tout aux humains. Malheureusement, avec la matière putrescible, c'est pas toujours possible.
Mm-hmm.
Fait que là, au moins, ben, on retourne dans le cycle alimentaire. Fait qu'eux, ils visent ça le plus possible.
Est-ce que c'est n'importe quelle sorte de produit? Autant de la viande que des produits transformés, que des aliments de...
Oui, en fait, on va tout prendre sauf les produits que de la viande.
OK.
Donc, il y a vraiment une ligne là. Dans le fond, vu qu'on réintroduit la chaîne alimentaire, il y a certaines normes d'hygiène là, qui nous empêchent de prendre tout ce qui est viande, mais sinon, tout le reste, pas mal, on peut le prendre.
OK, ça marche. Puis là, c'est consommé par les insectes. Est-ce que les insectes... Donc, il y a aussi, j'imagine, un processus de régénération de la masse d'insectes que vous avez dans l'usine?
Oui, exact. Dans d'autres industries, normalement, ça serait tout fait séparé par d'autres partenaires, etc. Si on regarde la chaîne agroalimentaire, par exemple, mm-hmm, dans l'élevage de porc. Malheureusement, dans les secs, il n'y a pas encore cette disponibilité-là. Fait qu'on doit effectivement tout faire. Donc, nous-mêmes, on a peut-être 1 % des larves qui vont aller en reproduction.
OK.
Parce qu'une mouche peut pondre jusqu'à 900 œufs. Donc, ça n'en prend pas beaucoup, mais ça en prend un petit peu qui vont aller se reproduire et assurer le cycle de vie.
OK. Puis est-ce que vous aviez senti, là, tu me parlais que c'est principalement pour les animaux domestiques, mais est-ce que c'est un modèle d'affaires qui peut se reproduire, par exemple, pour l'industrie agroalimentaire?
Ouais.
Pour l'industrie un peu plus de la viande qui est consommée par les humains?
Oui, bien, ce qu'on voit, c'est clair qu'il y a de l'intérêt dans toute l'industrie de la volaille, autant dans le fond, dans les poulets qu'on mange, ou sinon pour les œufs, ou pour l'épiciculture, là, qui est un élément effectivement naturel, là, qu'on parle d'insectes. Fait que c'est quelque chose qu'on travaille, par contre, à court terme, les animaux domestiques, souvent un propriétaire de chien ou de chat, est de plus en plus sensible à l'environnement. Donc, il va vouloir acheter une moulée ou des croquettes pour chien, par exemple, avec l'empreinte carbone la meilleure. Fait que c'est là qu'on voit qu'ils sont prêts à payer une prime pour le côté développement durable.
Okay.
Dans les animaux d'élevage, on l'a peut-être un peu moins, mais c'est aussi une question de volume.
Parce que ça produit... Si on prend la quantité de résidus d'épicerie et tout ça qui rentre à l'usine versus la quantité de farine et de fumier qui est produite à la fin, ça ressemble à quoi un peu le ratio?
Oui, bien exemple, pour 90 000 tonnes de matière organique qui va rentrer par année, on va avoir à peu près 5 000 tonnes d'insectes séchés protéinés.
OK.
Puis 15 000 tonnes de fertilisants.
OK. Du fertilisant, c'est ça qui peut, j'imagine, davantage être utilisé d'emblée par l'industrie de la culture de masse, là, j'imagine.
Exact. C'est un fertilisant biologique qui va être utilisé par les fermes maraîchères ou sinon, probablement, vous allez l'en voir sur les tablettes là, pour les gens qui jardinent à la maison également.
OK. OK, c'est super intéressant. Ça a été comment de bâtir l'équipe autour de vous? Pour ce défi-là, j'imagine que c'est pas... Comme c'est une expertise qui n'est pas partout, ça s'est passé dans quel ordre, le fait de vous entourer puis de vous bâtir l'équipe de...
Oui, je pense que ça arrive très naturellement. Puis je dirais que c'est ce qui nous différencie pas mal. Là. C'est vraiment le ownership des gens qu'on a à l'interne.
Mm-hmm.
On n'a pas tant bâti l'équipe que l'équipe s'est bâtie autour d'Anthosystem. Rapidement, il y a des gens qui cognent à notre porte de dire « j'aime la mission, je veux joindre, je veux faire une différence
».
On a été très complémentaires. Donc, dès le début, on a eu un biologiste, entomologiste, après ça, des ingénieurs, etc. Fait qu'on a bâti rapidement l'équipe pour avoir le moins d'angle mort possible.
OK.
C'est vraiment des gens qui croyaient à l'émission, qui venaient nous rejoindre. Fait que ça a été vraiment bénéfique pour nous.
OK. Puis j'imagine que c'est un projet qui était aussi très personnel à vous quand vous avez fondé ça avec M. De Pelleteau, je pense.
Oui, exact.
Puis vous-même, j'imagine que c'était important aussi pour toi que ça soit des gens qui aient cette implication-là puis cet engagement-là.
Oui, ben je pense que c'est ce qui fait la différence, là, je veux dire. Puis je pense que de nos jours, on a besoin d'avoir... Bien, tout le monde a besoin, tu sais, nous-mêmes, un purpose dans la vie, là, vraiment une mission.
Ouais.
Fait que je pense que c'est important que les gens, quand ils rentrent chez Anthosystem, bien, il y a cette espèce de test de valeur-là qui est en lien avec nos propres valeurs.
Mm-hmm.
Je pense que c'est ce qui fait la différence parce que c'est sûr qu'on a beaucoup de défis devant nous, donc ça prend des gens commis. Là.
C'est clair. Toi, personnellement, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef là, de cette entreprise-là, est-ce que... Pour toi, ça s'est passé comme tu voulais, le développement de cette équipe-là? Ça a été quoi, peut-être, tes défis dans tout le processus de création de cette business-là puis cette équipe-là?
Bien, je dirais le défi pour nous, c'est qu'on a quand même une croissance rapide. Tu sais, les 2-3 premières années, on était à peu près 2-3. Puis d'un coup, on est passé, exemple, de 3 à 30. Là, on approche la quarantaine de personnes et on doit monter à 100 d'ici la fin de l'année. Fait que je pense que le défi, c'est d'être capable d'être assez flexible et ouvert parce que ce qui fonctionnait à 20, c'est plus la même chose rendu à 40 ou à 50. Mm-hmm. Fait que c'est de se renouveler continuellement. Ça, je pense que c'est un bon défi qu'on vit quand même. Là.
OK. Est-ce que tu disais que ta famille est très dans le milieu entrepreneurial aussi? Est-ce que tu sens que ça a été de bons conseils d'avoir cette expérience-là proche de toi?
Oui, bien, je pense que c'est sûr. Là, je veux dire, je suis pas du type à croire. Il y en a qui disent en entrepreneuriat, il faut que tu aies une idée, puis tu fonces, puis tu n'écoutes pas les autres. j'y crois pas du tout, honnêtement.
OK.
Donc, tu sais, nous, ça a été ça depuis le début. On était dans un incubateur d'entreprise, Espacinc. Fait qu'on avait des coachs, des mentors, puis ça a été vraiment ça depuis le début. Il y a vraiment un grand écosystème autour d'AntoSTEM qui nous aide d'une multitude de façons. Je pense que ça fait la différence.
Ah ouais. Qu'est-ce que tu sens que toi, personnellement, tu as été chercher le plus dans cet accompagnement-là?
Ben, c'est dur à dire. On est tellement tout le temps dedans qu'on est toujours
C'est difficile d'avoir du recul, de voir qu'est-ce qui sort de...
Oui, exact. Mais qu'est-ce qui est clair, c'est quand on commence, je veux dire, la première fois qu'on faisait une ronde de financement d'un million, j'avais aucune idée comment faire, puis j'étais sûr que j'allais jamais y arriver. Finalement, on l'a fait. Puis là, finalement... 4 ans plus tard, on a levé à peu près 70 millions. Fait que c'est tout des défis que je me dis, ah, je pense qu'à un certain stade, je vais dépasser ma limite, puis je vais passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Mais bon, finalement, je suis encore là aujourd'hui.
Ah ouais, tu pensais pas poursuivre aussi loin que ça dans cette aventure-là?
Bon, on se pose toujours la question, puis je pense que de plus en plus, je parle des entrepreneurs, je pense que c'est un sentiment quand même partagé, l'espèce de sentiment d'imposteur qu'on...
Ah.
Fait que c'était un peu ça de se dire, OK, ben est-ce que je vais vraiment être capable d'amener l'équipe-là, puis d'amener l'équipe-là, est-ce que je suis encore la bonne personne? Fait que, dans tous les cas, je pense que de se challenger, c'est une bonne chose de se remettre en question. Mais c'est sûr que c'est des gros défis. Fait que pour moi, le projet est plus gros que moi, fait que je vais être sûr de jamais devenir le frein de cette entreprise-là.
Ah, c'est ça. Peut-être pas nécessairement de plus être impliqué, mais de pas être la... Tu avais peut-être la crainte de rester la personne qui est pertinente à être en tête de ce bateau-là.
Non, exact. Je pense que c'est des gros défis, puis on a des grandes ambitions. Tu sais, on veut bâtir 10 usines comme celles qu'on a faites dans les 10 prochaines années.
Oh!
Fait que je vais être sûr qu'on a... tout le temps les bonnes personnes aux bonnes places pas capables de livrer ce projet-là.
OK. Est-ce que tu sens qu'il y a une personne... Si tu avais à mettre le doigt sur peut-être la personne qui t'a aidé à prendre ce step-là, parce que visiblement, entre il y a 5 ans, j'imagine, à se demander comment on fait pour lever 1 million, puis là, 4 ans plus tard, 70 millions, j'imagine qu'il y a eu des... il y a eu soit des moments clés ou des personnes qui ont dû faire une grosse différence dans ce processus-là.
Oui, ben c'est clair que c'est pas une personne, mais une multitude de personnes.
Mm-hmm.
Je pense que ça l'a parti à la base avec Christopher Warburton, qui est probablement l'employé numéro 1 puis un des bâtisseurs de l'entreprise.
Mm-hmm.
Lui qui est venu avec tout son savoir-faire pour vraiment nous aider en tant que biologiste à l'interne.
Mm-hmm.
Ben, ce que ça a fait, c'est que lui pouvait gérer pas mal dans l'entreprise pour me permettre, moi, de me sortir de l'entreprise puis d'aller travailler justement sur le financement, sur le développement.
Mm-hmm.
Fait que je pense que cette complémentarité-là a fait la différence au début. Puis après ça, bon, c'est ça, mes coachs, Alain ou Julian que j'ai, m'ont tout le temps aidé, autant par le coaching, mais sinon autant par le réseau de contact, autant par, tu sais, à chaque fois, tu as un défi, ben, ils sont capables de trouver la solution. Puis bon, après ça, à l'interne, ça a été de grandir, d'avoir un directeur financier, qui est Jean-Philippe Doré, qu'on a à l'interne, etc.
Mm-hmm.
Fait que je pense que ça a été de bâtir l'équipe aussi interne en grandissant.
Puis plus avoir toute la pression de toutes les décisions sur tes épaules si...
Non, exact.
Il y a à faire.
Ouais, je fais souvent ça à la blague, là, mais on est encore en train de définir mon rôle, qu'est-ce que je dois faire. Mais
en tant que fondateur, en effet.
Ouais. Non, mais exact. Mais s'il y a quelque chose que je peux dire, c'est que je me suis bien entouré. T'sais, je peux me donner une force. Mm-hmm. Fait que, aujourd'hui, j'ai des gens beaucoup plus compétents que moi dans à peu près tous les postes. Donc, je pense que c'est ce qui fait la différence. Là. Je veux dire, mon financier, mon ingénieur, etc., toute l'équipe sont vraiment compétents, puis je leur laisse faire leur travail, puis sont meilleurs que moi. Là.
Est-ce que c'est un conseil qu'on t'avait donné, ça, justement, dans ce mentorat-là, de l'importance de bien t'entourer?
Oui, je pense que dès le début, effectivement, de bien s'entourer, c'est quelque chose qui revient beaucoup, beaucoup, surtout dans les incubateurs. Je pense qu'ils voient à quel point que c'est important, en tant qu'entrepreneur, de s'entourer.
Mm-hmm. Dans les 6 dernières années, là, c'est comme si c'est exponentiel un peu la croissance que l'entreprise prend. Ça a été quoi la période un peu plus lente du début? C'était la recherche avec des universités? Qu'est-ce qui était le départ qui a pris plus de temps?
Ben, c'est justement, au départ, c'était là que j'étais peut-être le plus tout seul. C'est sûr que quand t'es... Bon, j'étais tout seul, il y avait ma femme qui m'aidait à faire mon plan d'affaires. On était comme les deux à essayer de me donner un petit coup de main.
Mm-hmm.
Donc, c'est sûr que ça, c'était un peu plus long parce que vraiment, là, c'était de la recherche. C'était plus faire le plan d'affaires. Ça prenait des mois à travailler là-dessus. C'était moins un peu dans l'action. On dirait que c'est après que ça a déboulé, à partir du moment que, bon, t'as un local, t'as des insectes, des clients, bien là, tout bouge beaucoup plus vite, on dirait.
Oui, c'est ça, parce que ça a aussi commencé par un petit local avec une coupe de bocal de mouche, puis on essaye de faire quelque chose.
Oui, bien en fait, ça a commencé dans le sous-sol de Jean-François, puis dans mon condo, dans la chambre d'à côté, d'avoir des larves et des mouches, là, fait que...
qui est beaucoup de compromis, beaucoup de discussions aussi, là, le moment où est-ce qu'on commence à avoir des insectes à la maison.
Ouais, c'est clair. Mais tu sais, je pense qu'on... autant dans mon cas, puis que dans le cas de Jean-François, c'est vraiment nos familles qui ont été impliquées puis qui ont créé tout ça qui l'a rendu possible.
OK.
Mais on a commencé à la base.
J'imagine, puisqu'il y a un grand aspect aussi environnemental à cette démarche-là, de vouloir réduire, de réutiliser ces matières-là qui allaient être jetées ou compostées. J'imagine que ça doit être challengeant aussi, si vous êtes pour bâtir, de vouloir rester dans la continuité, de vouloir faire des usines qui sont performantes en énergie. Est-ce que ça rend la tâche plus compliquée?
Je pense pas. Je pense que c'est l'inverse. C'est toute entreprise qui met pas le développement durable au cœur de son entreprise va avoir des défis. Selon nous, à recruter du personnel. Je pense que les gens sont de plus en plus sensibilisés et veulent faire une différence.
Mm-hmm.
Après ça, autant au niveau des aides financières, autant des prêts, on le voit de plus en plus que tout le monde cherche à améliorer leur empreinte carbone. Nous, on est capable de prouver que notre usine va réduire les gaz à effet de serre. Donc, ça nous aide énormément dans plusieurs facettes de l'entreprise.
Ah ouais, est-ce que tu sens que justement le recrutement, ça, c'est un peu le nerf de la guerre de bien des entreprises en ce moment? Puis Dieu sait, chez vous, on le sait, là, c'est un peu le cœur de notre quotidien. Est-ce que vous sentez que ça fait une différence quand vous faites des recrutements?
Oui, bien, tiens, c'est sûr que ça va être une grosse année l'année prochaine. On pourra s'en parler dans un an. Là, on cherche peut-être 60 personnes.
Quand même.
Fait qu'on le sait qu'on va avoir un défi à ce niveau-là parce que là, c'est vraiment comme beaucoup d'embauches massives rapidement. Mais jusqu'à date, pour aller à peu près les 35, 36 qu'on est aujourd'hui, ben, ça a été quand même assez facile parce que, comme je disais, on recevait des CV, on recevait des messages de gens qui voulaient venir travailler avec nous. Fait que pour l'instant, ça nous a vraiment aidé. Après ça, là, on est en train d'ouvrir une nouvelle usine à Drummondville. Là. Pour l'instant, on est à Sherbrooke.
Mm-hmm.
Fait que c'est sûr, c'est un nouveau milieu. On commence à apprendre à le connaître, mais déjà, on a commencé à recruter et ça va bien. Fait que je crois que c'est super important d'avoir une mission qui est, puis, je dis environnementale, mais sociale également, puis qu'on soit capable de bien la communiquer après aussi.
OK. Puis j'imagine aussi que dans les valeurs de vous comme employeur, j'imagine que ça doit être important pour vous que ça soit quelque chose qui se reflète dans les pratiques au quotidien.
Oui, non, c'est clair. C'est une de nos valeurs, en fait, là, s'inspirer de la nature. Fait que c'est pas juste de dire on a un modèle qui fait du sens, mais t'sais, on a un comité environnemental, on va faire des jardins sur le terrain, etc. Fait que on essaie vraiment de pousser la chose le plus dans toutes les décisions qu'on va prendre, de le temps avoir cette facette environnementale ou sociale. Là.
Mm-hmm. Comment est-ce que tu envisages l'avenir, du moins au Québec, au Canada, de ton industrie? Est-ce qu'il y a bien des joueurs? Est-ce que ça joue dur parce que tout le monde essaie de tirer son épingle du jeu? Comment ça se passe maintenant? Comment t'envisages ça dans le futur?
Oui. Mais je pense qu'on est vraiment à un point pivot. Ça fait une dizaine d'années qu'on entend, peut-être même plus, 15 ans, que ça existe, mais à des échelles différentes. Je pense qu'il y avait beaucoup de savoirs qui devaient se créer. Je pense qu'on est rendu au point où ce qu'on va passer un peu de la recherche à la production de masse. Fait qu'il va y avoir de plus en plus de produits disponibles sur leur marché. Donc, on va vraiment démocratiser l'élevage d'insectes. Puis, pour venir à la question, est-ce qu'on se voit comme des compétiteurs? Puis, on essaye de se battre un peu, là, mais pour l'instant, c'est pas du tout ce qu'on voit, c'est l'inverse. Si je suis le seul producteur d'insectes, bien, il n'y a pas de fournisseurs ou de fabricants qui vont dire, hey, je vais l'incorporer. Fait qu'on a besoin d'avoir une industrie forte pour bâtir la crédibilité, autant au niveau des clients, mais aussi des banques, autant au niveau du gouvernement pour qu'ils changent la réglementation.
Ouais.
Donc, pour l'instant, on le voit ça très bénéfique. Vraiment, il y a peut-être une trentaine d'éleveurs au Québec à différents stades. Donc, on voit qu'il y a vraiment une explosion du nombre d'entreprises. Fait que là, c'est juste de consolider un peu ça puis de s'entraider pour passer à l'étape suivante. Là.
Est-ce qu'il y a une grande variété d'insectes qui sont utilisés? Est-ce que ça varie? Ça fait varier la qualité du produit?
Ben, en fait, il y a trois insectes là, normalement qui sont élevés à grande échelle, là, soit le grillon, le ténébrion puis la mouche de noir qui est notre insecte à nous.
OK.
La différence, c'est que normalement, ténébrion, grillon, va pas nécessairement faut prendre des matières humides, donc peut-être pas des résidus d'épicerie.
Ah, OK, ça change la matière première.
Exact. Par contre, eux vont souvent aller un peu plus dans la consommation humaine.
Oui, c'est ça que j'allais dire. Est-ce que, avec cet insecte-là que vous avez, la mouche, est-ce que ça peut être envisageable ou c'est une question de perception de la part du consommateur qui rend ça plus difficile à faire entrer peut-être sur le marché?
Bien, c'est clair qu'une larve de mouche, c'est peut-être pas ce qui est le plus appétissant pour le consommateur à la base.
Je posais la question avec un peu d'inquiétude, là.
Mais honnêtement, elles sont vraiment pas mauvaises. Nos larves, on peut les manger. Bien, on peut. C'est pas permis au Canada selon la réglementation, mais niveau salubrité, ça le serait.
Fait que même si vous vouliez produire de ça pour la consommation humaine, vous n'auriez pas le droit en ce moment.
Pas aujourd'hui. Il faudrait vraiment qu'on démontre au gouvernement la salubrité, etc. Fait que c'est quelque chose qu'on pourrait faire.
Est-ce que c'est dans le plan?
Pas à court terme. Tu sais, je pense qu'il y a plein de belles entreprises qui vont vraiment offrir des belles offres justement avec du crayon, du thym, du brillon pour la consommation humaine. Fait que je pense qu'ils répondent bien à la demande.
Il y a peut-être encore du chemin dans la perception justement des consommateurs avant d'investir massivement à rendre ça dans la consommation humaine.
Non, c'est clair. Mais puis nous, c'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup sur, exemple, comme je parlais de la poule, du poisson. T'sais, quand vous regardez une poule qui gratte le sol, elle cherche des insectes. Fait que pour l'instant, on leur donne une source naturelle d'alimentation qui est remplie de bon sens. Puis on se concentre sur l'industrialisation. Vu que nos clients, je dirais qu'on n'a pas à les convaincre.
Là. C'est clair. Puis peut-être, justement, tu disais juste un peu auparavant que vous êtes en train d'un peu de définir le rôle que toi, tu aurais un peu plus dans le quotidien. Tu le perçois comment? Ton rôle en ce moment, ton rôle quand vous allez grandir, j'imagine que ça va un peu changer le spectre de tes responsabilités.
Oui, c'est clair que je pense que ça change quand même beaucoup. Mon premier objectif, on l'a touché un peu tantôt, on parlait des valeurs, les valeurs d'entreprise. Mm-hmm. Un de mes rôles, c'est d'être sûr que même en grandissant, avec une forte croissance, qu'on ne se dénature pas.
Oui, qui ça, des fois, c'est toujours ça l'intention, mais ça ne se passe pas toujours dans l'application nécessairement.
Non, exact. Mais là, encore une fois, d'avoir choisi des personnes qui étaient alignées avec la mission, la vision, ça l'aide beaucoup à garder le cap. Donc ça va être un de mes rôles, ça va être de continuer à garder ça au travers de la croissance. Puis de l'autre côté, c'est de faire sûr que tous mes gens à l'interne, ils ont tous les outils qu'ils ont besoin pour performer puis pour croître dans l'entreprise aussi.
OK. Donc là, l'usine actuellement, c'est un projet pilote. Est-ce que vous êtes en attente d'une certaine... C'est quoi les étapes qui s'en viennent avant de se mettre à construire une dizaine d'autres usines dans le reste des prochaines années, en fait?
On a une usine pilote à Sherbrooke qui a à peu près 40 000 pieds carrés, fait qu'il y a déjà une bonne taille. Donc, on produit déjà d'une façon industrielle parce qu'on ne voulait pas laisser rien au hasard quand on allait bâtir notre nouvelle usine. Fait que tout a été pré-testé.
Mm-hmm.
Mais je dirais que qu'est-ce qui va vraiment manquer, ça va être effectivement d'ouvrir cette usine-là puis de démontrer ce qu'on a dit qu'on allait faire, qu'on va le faire.
Okay.
Puis à partir du moment qu'on l'a démontré, je pense qu'il n'y a rien qui va nous arrêter pour ouvrir une multitude d'usines.
Parce qu'il y a assez de demande au niveau de la nourriture pour les animaux domestiques.
Ouais. Oui, même juste effectivement dans le monde des animaux domestiques, il y a une très, très, très belle demande. Puis après ça, si on parle d'animaux d'élevage, là, il n'y a à peu près pas de limite là, au volume qu'ils ont besoin.
Oui, c'est ça. Je me demandais, c'est quoi, à ton avis, de ce que tu en connais, la perception de cette industrie-là par rapport à votre produit? Qu'est-ce qui les empêche de sauter dans le train des insectes en ce moment?
C'est clair qu'on a beaucoup, beaucoup d'intérêt. On reçoit beaucoup d'appels. On fait beaucoup de tests même avec eux autres. Donc, l'appétit est là. Je pense que premièrement, c'est quelque chose, le volume. On dit, eux autres, des fois, juste pour l'intégrer dans une moulée, ils ont besoin de milliers de tonnes, de dizaines de milliers de tonnes par année. Donc, c'est là qu'on a besoin de bâtir plus d'usines pour être capable de leur répondre. C'est un peu une question de la poule ou l'œuf dans ce cas-ci.
Littéralement.
Exact. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça. Puis de l'autre côté, on a démontré les bienfaits environnementaux. Ce qu'on est en train de démontrer aussi, c'est tous les bienfaits sur la santé. D'être capable de démontrer que si la poule mange X % d'insectes, tu vas peut-être réduire les besoins en antibiotiques. Tu vas peut-être améliorer sa qualité de vie. Fait que c'est toutes des choses qu'on veut démontrer pour que ce ne soit pas juste une commodité ou une protéine à un prix fixe, mais que c'est un genre de super aliment qui va justifier peut-être un prix aussi plus élevé.
Mais ça ne pourrait pas être le cœur de leur alimentation pour les animaux. Ça ne pourrait pas être les insectes. En termes de quantité, ça ne pourrait pas.
C'est sûr que ça dépend tout le temps de quel éleveur qu'on parle, mais de ce qu'on a vu, c'est qu'avec des faibles inclusions, on fait quand même un impact significatif sur la santé des animaux. Fait que c'est peut-être une piste qu'on veut
explorer. Sur la santé des animaux. J'aurais pensé quasiment la valeur nutritive au final du produit, mais littéralement sur la santé des animaux.
Oui. Tu sais, si on regarde notre insecte à la base, qui est une larve de mouche, généralement, la larve, vous allez la voir dans du fumier, dans des substrats avec beaucoup de pathogènes.
Mm-hmm.
Donc, pendant des millions d'années, elle a évolué dans les substrats les plus difficiles. Donc, naturellement, elle vient avec ce qu'on appelle des peptides antimicrobiens. Elle est capable de se défendre. Mettons qu'il y a de la E. coli, mais elle va être capable de se défendre de ça.
Ah!
Donc, si
d'où le besoin d'antibiotiques, là, le lien que tu faisais tout à l'heure.
Exact. C'est que ça vient d'une espèce de vaccin naturel ou quelque chose qui va augmenter le système immunitaire de l'animal parce que la larve était développée pour ça.
OK. Mais est-ce que, de ce que tu connais de l'industrie puis des prévisions des prochaines années, est-ce que c'est réaliste de penser qu'on serait en mesure au Québec de produire une assez grande quantité de ce produit-là pour l'intégrer de manière assez globale à l'alimentation des animaux de l'industrie agroalimentaire?
Bien, je pense qu'on va faire un impact. Par contre, ça va prendre une multitude de solutions. Là. Si je compare, je dis que je veux faire 10 usines, on va parler dans les 10 prochaines années d'à peu près 50 000 tonnes par année.
Mm-hmm.
Mais tantôt, au début, je parlais un peu de la farine de poisson. Donc
ouais.
Ça, c'est qu'on va, soit en Amérique du Sud, en Asie, on va vider les océans des petits poissons qui sont comestibles par la population là-bas, ce qui crée quand même un fléau, on s'entend,
uh-huh.
qu'on ramène par paquebot, etc. Fait que tout ce phénomène-là de ce qu'on appelle la farine de poisson, bien, c'est 7 millions de tonnes par année qui est consommée. Fait que notre 50 000 tonnes avec 10 usines, c'est pas ce qui va remplacer au complet. On pourrait même dire que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais bon, nous, ce qu'on croit, c'est qu'il faut faire notre part puis qu'ensemble, on va être capable de trouver des solutions un peu plus durables. Mais on fait une des solutions, mais c'est pas nous qui va remplacer 100 % de l'alimentation.
Non, c'est
là.
Ça. C'est clair. Puis est-ce que tu sens, de ta perception peut-être, avec l'évolution de ton industrie, est-ce que tu sens qu'un jour, il y aura une plus grande place pour, dans l'alimentation même humaine?
Bien, moi, je pense que oui. Je veux dire, si je regarde il y a 6 ans aujourd'hui, on voit déjà une belle évolution. Il y a l'Insectarium de Montréal qui vient de lancer une belle boîte faite avec le chef Daniel Vizina, qui c'est super des beaux produits. Fait que, on voit que de plus en plus de chefs le mettent sur leur menu. Donc, un peu comme à une époque, les sushis, c'était pas vraiment bien vu, puis que ça a pris une évolution, ou les escargots.
Ouais.
Fait que je crois que oui. Après ça, ça va venir à quelle vitesse, comment, c'est dur à prédire.
OK, je comprends. On te sent très, très passionné et très connaissant de ton milieu, vraiment. J'imagine, quand tu rencontres des jeunes entrepreneurs, de quelle façon tu abordes ça? Comment tu les conseilles? J'imagine qu'on... Je sais que tu es très impliqué dans un peu des hubs d'entrepreneuriat et tout ça. C'est quoi ton approche quand on te demande des conseils?
Ben, la première chose, c'est de prendre tout ce que j'ai avec un grain de sel parce que je sais pas encore si je dis la vérité ou pas. Mais de ce que je peux voir, c'est ce qui a fait la différence. On en a parlé, c'est de s'entourer,
mm-hmm.
de tout remettre en question. C'est de rien prendre pour acquis.
OK. Avec l'expérience que tu as là, qu'est-ce que tu te conseillerais à toi-même il y a 6 ans?
Honnêtement, on a été ultra choyés du parcours qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. Là. Fait que, on dirait que tout s'est vraiment aligné, comme je disais, autant avec l'équipe, mais on a été supporté aussi. Fait que, j'ai vraiment rien reproché à tout ce qu'on a fait chez Anthosystème. Fait que la seule chose que je peux voir, c'est peut-être de me faire un peu plus confiance.
Peut-être
plus rapidement. En même temps, est-ce que c'est de pas avoir eu confiance, au moins, qui m'a questionné plus que fait ce qu'on a fait? Fait que c'est dur à dire.
Ouais, est-ce que tu sens que tu as beaucoup été challengé par ton pas ton manque de confiance, mais le fait que c'était beaucoup questionné?
Oui, ben tu sais, c'est ça. C'est, comme je dis, de se remettre en question, de toujours douter, c'est ça que ça a fait que je me suis autant entouré, que j'ai été autant prendre de coach, que j'ai autant demandé d'avis. Fait que des fois, ça peut paraître d'aller un peu plus lent parce qu'on re-questionne, on implique un peu plus de monde dans les décisions. Il faut éventuellement être capable de trancher. Donc, en même temps, dans une nouvelle industrie, je pense que c'est ultra nécessaire. On a tellement de défis d'innovation que le reste, qui est plus standard, exemple, qu'on parle de lever de l'argent, de recruter, c'est toutes des choses qui sont un peu plus connues. Mais il ne faut pas qu'il y ait l'incertitude. Il faut qu'on aille chercher l'information pour qu'on n'ait pas peur de cogner à des portes. Là.
Oui, parce que ça, indépendamment de l'industrie, il y a moyen d'avoir un coup de main pour toutes ces choses-là.
Exact. On ne peut pas tout créer en même temps. Là,
oui, c'est clair.
On avait assez de défis comme ça. Fait que le reste, c'est du domaine connu. Puis en tant que ça restait ma première entreprise.
Ouais.
Pour moi, c'est super important de m'entourer pour tout le reste. Là.
Est-ce que tu te verrais avoir un peu plusieurs projets à la fois? Est-ce que tu te verrais partir de la business dans d'autres domaines aussi?
Non.
Okay.
On peut être franc. Non, bien, je crois que, surtout si on parle de vouloir bâtir 10 usines, c'est vraiment un
ça
immense...
Ça va être prenant.
Exact. Ça va être prenant, puis je pense que ça a besoin de 100% de mon attention. Puis bon, c'est ce que je pense que l'entreprise mérite aussi, là, que je sois dédié puis commis. Par contre, c'est sûr que je le réalise un peu, justement, qu'on en a parlé, d'aider d'autres entrepreneurs qui commencent. Bien, ça fait juste satisfaire toute ma curiosité un peu dans ce domaine-là, puis ça me fait plaisir de partager mon expérience.
OK. Est-ce qu'il y a d'autres domaines que tu gardes un peu dans ta ligne de mire, là, sans peut-être toi-même t'y investir, mais dans lesquels tu pourrais accompagner d'autres gens?
Bien, c'est surtout qu'est-ce qui est dans le développement durable. Autant parce que, je pense que ça commence à être notre expertise de connaître les programmes ou les bonnes portes à les cogner.
Oui, c'est vrai.
Mais autant que je crois que c'est ce qui est requis. T'sais, je pense que toute entreprise qui démarre doit avoir un volet. Il faut qu'il y ait de la planète d'une façon ou d'une autre. C'est le défi de du siècle, selon moi. Mm-hmm. Fait, il faut que tout le monde soit aligné avec ça. Fait que c'est sûr que c'est tout ce qui touche à ça. Puis ça peut être autant en alimentaire, mais autant que une entreprise là, que je suivais de près, qui est Oula One, eux, ils enlèvent les microplastiques des plages avec une machine. C'est tout de genre de projets qui vont aider la société d'une façon ou d'une autre. C'est sûr que ça m'intéresse beaucoup. Là.
OK. À ce stade-ci, j'imagine que tu dois un peu ressentir le parcours, tous les apprentissages que tu as pu faire, après tous les défis. Qu'est-ce qui t'inspire après avoir déjà mis autant de... T'es dans une phase particulière, j'imagine, aussi de ton entreprise, où c'est plus le départ embryonnaire. Là, vous êtes vraiment pile dedans. Qu'est-ce qui te garde inspiré?
Oui, bien, c'est sûr qu'on a un gros parcours en arrière. Puis comme je dis, surtout dans des jeunes entreprises, là, avec la croissance qu'on a vécue, on n'a comme pas vraiment le temps de regarder en arrière puis qu'est-ce qui a été parcouru. Là, puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut se forcer à faire là, pour être capable de...
OK, c'est intéressant.
De célébrer les petites victoires puis de souligner le travail accompli. Fait que ça va faire partie de mes résolutions de bonne année, je pense, de reconnaître un peu plus l'effort qu'on a fait.
Ah ouais? Comment tu as l'impression que ça peut se manifester?
Ben, t'sais, c'est des choses aussi banales qu'avant, on était une petite équipe, on était 8. Ben, tous les vendredis, en fin de journée, on prenait une bière puis on soulignait ce qu'on avait fait. Puis, t'sais, chaque occasion était bonne d'applaudir un peu, tandis qu'aujourd'hui, ça va tellement vite. On est toujours au nouveau défi, puis à l'autre défi, puis à l'autre défi.
Ouais.
Je pense qu'il faut s'autoriser des petits moments d'arrêt. Là. Ça, c'est peut-être quelque chose que je vais vouloir faire un peu plus. Là.
OK, ça marche. Ça a été quoi les grandes étapes? Y a-t-il des moments marquants? Que tu regardes, vu qu'on est dans les petites victoires, là, célébrer les victoires, ça a été quoi peut-être les moments marquants qui te viennent en tête quand tu penses à la réussite de cette entreprise-là?
Ouais, bien, tu sais, première chose, je le considère, tu sais, bon, je fais attention parce que c'est contradictoire ce que je viens de dire, là, mais on ne le considère pas comme une réussite encore parce que, tu sais, le vrai défi devant nous, c'est bâtir cette usine-là, c'est de la rendre profitable, ça va être un gros défi opérationnel.
Oui, parce qu'à l'heure actuelle, est-ce que c'est profitable, ce modèle-là?
Bien, pour l'instant, je dirais que c'était beaucoup de la recherche-développement. Là. Fait que, c'est sûr que c'était pas nécessairement... l'usine, exemple, qu'on a à Sherbrooke, n'est pas faite pour faire de la grosse production. Elle est faite pour répondre à tous les questionnements qu'on a. Parce qu'on comme on sait, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire hey, « voici le plan, comment faire une usine. » Fait que, cette usine-là sert vraiment à... Bon, on a quelque chose à valider, on va le monter, on va le fabriquer, on va le tester, on va le démonter. Donc, c'est pas fait pour produire. Là, c'est sûr que l'usine qu'on va bâtir, là, oui, on espère que... on espère. Elle va être profitable.
Mais, on croise les doigts.
non, exact. Je pense qu'on a un modèle d'affaires assez robuste. On a des bons partenaires. Mais bon, c'est sûr que là, notre gros défi, ça va être de le réaliser. Là, je veux dire, toute usine qui ouvre a son lot de défis. Après ça, mettez qu'au cœur de ça, c'est des insectes vivants. Et dans une nouvelle industrie qui vient avec son lot de défis. Donc, c'est sûr que ça va être une grosse année devant nous, mais on est très confiants là, de notre équipe. Là.
Donc, ça, à quel moment est-ce que tu t'es... J'imagine qu'il y avait un projet, il y avait une idée, on fait un plan d'affaires. C'est quoi le moment où tu t'es dit, ça se peut peut-être, là, finalement, les mouches?
Ouais, ben, tu sais,
quand est-ce que c'est devenu vrai?
Ouais. Ben, en fait, c'est depuis le début. Je pense depuis la première journée, c'est vraiment une montagne russe que dans la même journée, on est comme « Oh mon Dieu, ça va marcher » à « Oh mon Dieu, on va faire faillite ». Bon, peut-être que j'exagère un peu, mais ça reste que c'est toujours des très, très gros hauts, très gros bas. Parce que, bon, on vient un immense défi qu'on pense qu'on ne sera jamais capable de le relever. Puis finalement, bon, on le relève. Puis à date, il y a 6 ans, je disais, on va ouvrir des usines. Ben, on l'ouvre, on voulait tel partenaire, on est allé chercher. Fait que, je pense qu'on réussit à suivre le plan, mais c'est sûr que ça vient vraiment avec avec beaucoup d'émotions, je dirais.
C'est quoi les aspects qui sont un peu plus difficile à faire avancer, justement? C'est quoi les moments qui font « on sera jamais capable de, ouais. de bâtir ça »
Ben, tu sais, c'est... Ben, un, on s'entend, on a commencé à bâtir en plein COVID, pénurie de main d'œuvre, tu sais, tout ça un peu. Fait que c'est sûr que sur les chaînes d'approvisionnement, ça a été des challenges.
C'est clair. Quand les épiceries étaient vides, j'imagine qu'il y avait moins de bouffe à donner aux mouches.
Ouais, ben, tu sais, ça, pour ça, le Canada est un des pays qui gaspille le plus au monde, malheureusement. Fait que, pour l'instant, on manque pas de matière, mais sinon, c'était plus de, bon, ben... T'as besoin de trouver une entrée électrique qui vient de telle place, qui est retardée par telle autre affaire ou...
Ah, la chaîne d'approvisionnement,
oui,
c'est
exact,
ça
pour exact. Fait, ça a amené son lot de défis. Pour l'instant, on a toujours pivoté, on trouve d'autres solutions, on travaille... Okay. Fait que juste qu'on travaille plus fort, qu'on trouve des solutions, mais c'est sûr quand tu arrives devant un fait de comme « Hey, j'aurais pas telle certification à date, faut retarder le projet » ou « Sur le coup, tu prends un petit deux minutes à pas nécessairement avoir de solution puis juste faire comme « OK, ça le fera pas » finalement, bon... On trouve toujours une alternative, éventuellement.
Puis j'imagine aussi que la communauté un peu plus internationale qui est là-dedans, les gros joueurs de cette communauté-là doivent être assez tissés serrés, j'imagine, pour se soutenir là-dedans. Est-ce que tu sens le soutien de la part de d'autres grosses entreprises ailleurs?
Oui, bien c'est sûr qu'il n'y en a pas des milliers encore. Là, je dirais qu'on est peut-être dans les 5 plus gros au monde.
Ah ouais.
Mais oui, il y a un organisme en Europe. Puis là, il y a aussi un organisme nord-américain. Fait que on fait partie de ça. On fait beaucoup de projets de recherche en commun. Fait que non, je pense qu'il y a vraiment une volonté de s'entraider. Ça, c'est pas évident de savoir comment on est tout le monde en train d'apprendre un peu là-dedans. Mais je pense que tout le monde veut voir. T'sais, on veut pas que personne tombe parce que ça n'enverrait pas le bon message à l'industrie.
Là. Non, c'est clair, c'est ça. C'est pas un milieu dans lequel l'échec d'un fait juste redonner des parts de marché aux autres. Là, c'est plus un... Ça fait un peu plus reculer l'industrie que le contraire.
Non, exact. Puis, tu sais, ça reste une jeune industrie. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui va fonctionner tout le temps parce que, bon, il y en a qui ont dû être les premiers. Il y en a qui n'ont peut-être pas toutes les ressources.
Ou qui ont fait peut-être des mauvais choix d'insectes, des mauvais choix de...
Non, exact. Puis, non, c'est ça. Fait que je pense pas que, tu sais, un ou deux qui, pour X raison, ne continue pas, va envoyer un mauvais message. Mais c'est sûr qu'on veut l'éviter le plus possible. Puis, à l'inverse, on veut qu'il y ait le plus d'insectes sur les tablettes. Mm-hmm. Surtout, exemple, ici, tu sais, il y en a beaucoup qui viennent d'Asie, mais on aime mieux que ça soit fait localement. C'est tout le but de l'insecte, c'est d'être en économie circulaire.
OK. Ah, parce que, mettons, les gros joueurs, ils seraient plus en Asie.
Bien, il y a quelques joueurs, effectivement, en Asie. L'Europe est quand même, je dirais, une couple d'années en avance sur nous aussi. Là.
Ah ouais, sur la technologie ou sur juste la productivité?
Sur les technologies. Je dirais que, tu sais, il y a 20 % de la planète qui mange des insectes de façon quotidienne. Donc, c'est sûr, culturellement, il y en a qui vont être en avance. Mais après ça, si on parle de technologie, je dirais les Pays-Bas et la France sont peut-être deux pays qui ont investi massivement dans l'élevage d'insectes, qui ont développé des belles technologies quand même.
OK. Qui est quelque chose, j'imagine, de quoi vous inspirez dans le projet pilote que vous avez en ce moment?
Oui, ben on essaie le plus possible tout le temps de collaborer un peu, de voir qu'est-ce qu'on peut récupérer ou qu'est-ce qu'on peut partager. C'est sûr qu'il y a un peu de secret industriel, un peu de propriété intellectuelle, mais on a tous des modèles assez différents pour l'instant que c'est pas parce que quelqu'un d'autre fait ça que toi, tu vas pouvoir le répliquer non plus. Là.
De par la matière première qui est donnée, c'est quoi les grandes différences peut-être entre les gros joueurs?
Oui, ben je dirais la première chose, c'est la génétique. Là, nous, on a mis une pression naturelle sur nos insectes pendant 6 ans pour développer une certaine génétique qui vont se reproduire de telle façon, avec telle lumière, etc.
Ah, OK.
Fait qu'on n'a pas toutes les mêmes souches non plus. Fait que là, je pense qu'il peut y avoir une différence. Après ça, un très bon point, ça va être la matière première.
Mm-hmm.
Je dirais que nous, c'est peut-être ça qui va nous rendre unique éventuellement, mais on s'est donné quand même des gros défis de prendre des matières d'épicerie parce que ça vient avec du plastique, du métal, du verre, des contaminants qu'on doit enlever.
Oh!
Donc, on a à peu près 7 à 8 étapes de désemballage, de tri optique, de rayon X, d'aimant, de tamière, ça fait une multitude de technologies mises ensemble qui nous assurent que quand on va livrer des produits, ben, ça va être des produits exempts de tout contaminant, qui sont vraiment de qualité.
OK.
Mais qu'à l'inverse, on a pris une matière qui était la moins bien valorisée. Parce qu'on aurait pu juste acheter du grain. Ça aurait été beaucoup plus simple.
Oui, il y en a qui font ça ailleurs.
Exact. Mais on n'aura pas le même impact carbone. T'sais, nous, on va vraiment tout le temps mesurer notre impact pour avoir la meilleure possible. Puis c'est cet intrant-là qu'on a ciblé qui allait nous permettre de réduire les gaz à effet de serre.
Puis est-ce qu'il y a une différence entre justement des produits d'épicerie qui sont parfois des produits transformés? Est-ce que ça impacte la qualité du produit à la fin?
ce qu'on a développé, nous, à l'interne, c'est que ça soit... C'est tellement varié ce qu'on reçoit qu'on est capable, éventuellement, de créer une espèce d'homogénéité là-dedans. Mais oui, c'est quand même un défi, puis c'est quelque chose qu'on regarde, parce que nous, si je vends ma protéine, ben, je suis obligé, exemple, de garantir 50 % de protéines. Je dois m'assurer de toujours le respecter. Fait que c'est là qu'on a une équipe de biologistes ultra importante qui travaille à tout le temps tester les nouvelles intrants, puis de savoir comment qu'on va l'utiliser. Puis c'est un peu là qui est notre expertise.
Puis est-ce qu'il peut y avoir des risques, par exemple, pour les allergènes, selon ce que les insectes vont manger?
Pas à date. Puis on a fait des tests. Exemple, je vous ai dit, on prend pas de viande. Mm-hmm. Fait que ce qu'on a testé, par exemple, c'est qu'on a donné 30 % de bœuf à des insectes pour qu'ils le consomment. Après ça, on a fait tout notre processus normal de séparation, de séchage, etc. Puis on a fait un test PCR, fait un test pour aller vérifier s'il y avait de l'ADN du bœuf dans la larve à la fin. Mm-hmm. Puis on n'en trouve pas. Fait que, on a fait plein de tests comme ça pour démontrer que y a, même si, exemple, il y a un peu de viande qui rentre parce qu'on a 250 tonnes, ça se peut que quelqu'un dans l'épicerie se soit trompé, mais il n'y aura pas de conséquences à la fin. Fait que, on prend beaucoup, beaucoup d'étapes pour être sûr qu'on envoie des produits, exemple, tout contaminant, d'allergènes, etc., là, par la suite.
OK, je comprends. C'est hyper vaste. T'as dû tellement apprendre en te plongeant là-dedans?
Oui, non, je dirais la courbe d'apprentissage, là, est vraiment, ça est parti tranquillement, mais après ça, là, la quantité de savoir se crée dans l'entreprise, puis que, bon, moi, j'essaie d'assimiler. Comme je dis, je ne suis pas le spécialiste dans tout ça, là, on a des
mais personnes. Mais tu n'es pas de la biologie du tout?
Non, exact, vraiment pas, mais c'est pour ça qu'on a une bonne équipe. Après ça, je vais juste un peu répéter ce que ces gens plus intelligents que moi me disent, là, mais on a vraiment une
plus
équipe compétente. Plus
spécialisée.
Bon, disons.
Là-dedans.
Exact. Non, c'est ça, mais c'est là qu'il ne faut pas le négliger. T'sais, on est une belle industrie, il ne fallait pas couper les coirons.
Mm-hmm.
Parce que, tu sais, on s'entend, si on empoisonne un chat ou un chien, ben, ça n'aidera pas l'industrie à émerger. Là.
C'est clair. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023, à toi puis à Ontosystème?
Peut-être pas d'autres pandémies.
On se le souhaite tous.
Pas d'autres canaux de stress ou de choses qui pourraient bloquer les chaînes d'approvisionnement. T'sais, pour l'instant, nous, je crois qu'on a donné notre maximum. Je pense qu'on a fait toutes les bonnes étapes, on a la bonne équipe. Fait qu'après ça, on contrôle ce qu'on contrôle. C'est toutes les parties qu'on contrôle moins, comme je disais, les chaînes d'approvisionnement et tout, là, qu'on se croise les doigts. Qu'on essaie de trouver des plans B, C ou D, mais c'est vraiment ça. Si tout peut s'aligner puis qu'on puisse démarrer notre usine, on a une équipe qui a vraiment hâte de pouvoir mettre la clé dans la porte là, de cette usine-là. Là.
J'imagine. Ou enlever la clé de la porte.
Oui, exact.
Puis toi, personnellement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter cette année?
De la continuité. Je pense que c'est juste de rester dans la voie qu'on est. Tu sais, je pense qu'honnêtement, je touche du bol, on est vraiment, vraiment choyé autant que toute l'équipe. Autant dans ma vie personnelle, d'entreprise, je dirais que les as sont alignés pour l'instant.
Ouais.
Fait qu'on se sent choyé, on est reconnaissant, puis on espère que ça continue comme ça.
Tu sens que l'équilibre est bon pour que tu puisses continuer à te donner à 100% là-dedans?
Je pense que oui. C'est sûr que c'est justement... L'entrepreneuriat, c'est un défi d'équilibre constant. Fait qu'il faut tout le temps revoir. Mais je pense qu'à date, ça va bien. Après ça, il pourrait toujours avoir plus d'heures dans une journée, on s'entend. mais écoute, je pense qu'on n'est pas à plaindre pour l'instant. Là.
Génial.
Pardon.
Un grand merci de ton temps. C'était un plaisir de discuter de ça avec toi.
Mais... bon, excuse-moi, je m'étouffe en même temps.
C'est trop d'émotion en
non,
même
exact,
temps.
Exact, mais merci beaucoup de m'avoir invité.
On n'est pas ému, on a juste mal à la gorge.
Vraiment désolé pour ça, mais non, mais merci. C'est tout le temps un plaisir de parler de l'élevage d'insectes puis de partager la bonne nouvelle des insectes.
Génial. Merci, Cédric.
Merci.